La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1, entre 15h et 16h. Et on va passer à la dernière séquence de l'émission avec vous, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question de Philippine. Je vous la lis tout de suite. J'ai été abusée. Quand j'étais plus jeune, j'ai aujourd'hui 21 ans, mais il est pour moi inconcevable d'avoir des rapports sexuels ou même de m'imaginer dans une relation. Je ne sais pas quoi faire pour arranger ça. Est-ce que c'est normal de ressentir ça? Alors, Catherine, Philippine nous explique qu'elle a vécu quand même des abus plus jeune. On va parler ici carrément de traumatisme, non? Puisque bien ce qu'elle décrit de la suite et des conséquences, évidemment, elle a vécu un traumatisme, tout simplement.
Bien sûr, même si ça n'avait pas entraîné les conséquences de Philippine, de toute façon, c'est un traumatisme. La question est, qu'est-ce qu'on fait de nos traumatismes? Et à la réponse, à la question d'abord de savoir si c'est normal que ça puisse avoir de l'écho, évidemment que c'est normal, ceci étant, il n'est pas question que cet événement la définisse. Et c'est toute la difficulté, c'est tout l'enjeu d'un travail psychologique, c'est se permettre de remettre l'histoire à l'histoire et de ne pas se sentir ou coupable, parce que c'est ça le pire, c'est que souvent les victimes se sentent coupables de leur non-défense et du coup de leur participation de façon tout à fait inconsciente par leur passivité, par leur peur ou par la confiance qu'elles ont fait en la personne qui a abusé d'elles d'une manière ou d'une autre, et du coup continuent à se le faire payer longuement. Ou alors, justement, s'interdisent toute possibilité d'être touchées.
Ça a l'air d'être le cas là.
Voilà,
hein, ouais.
Mais alors, où on se l'interdit, où on ne peut pas être touché parce qu'on se réduit à la position de victime et on se punit de ce que l'on a agi alors qu'on ne l'a pas agi soi-même, ou on ne peut pas être touché parce que c'est notre façon d'être enfin, de façon claire, dans le non affirmé par l'impossibilité d'être touché, justement.
Et du coup, comment est-ce qu'on fait, non pas pour passer à autre chose, mais pour vivre à vrai? Qu'est-ce que ça passe par une condamnation de la personne qui a fait ça, par une lettre, par des excuses, par en parler aux proches autour de nous? Parce que si ça se revient dans l'enfance, parfois l'entourage n'est même pas au courant. Est-ce qu'il y a une façon de se réparer en quelque sorte?
Alors, je crois que le chemin de chacun et chacune sont des chemins différents, bien sûr. Je crois qu'effectivement, le fait de pouvoir sortir de ce huis clos entre soi et son agresseur, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui et moi qui le savons, pouvoir se faire protéger, parce que souvent les victimes ont le sentiment que leur entourage, leurs parents n'ont pas été là pour les protéger, leur en veulent, alors que les parents ne le savent pas. Donc c'est important de pouvoir dire paisiblement, de pouvoir dire avec ses émotions. C'est parfois intéressant d'imaginer même des consultations familiales pour que la parole puisse se redistribuer et pas que la personne victime soit sous l'obligation du silence pour ne pas embêter la famille. Donc il y a ça, il y a ce que vous disiez. Parfois c'est aussi nommer, se confronter à la personne qui a agressé et la confronter à la réalité de son acte, de la justice et de son face-à-face. Et ça c'est important pour que justement la position de celui qui a posé l'acte soit prise en charge par celui qui a posé l'acte. Et puis ensuite, évidemment, c'est un travail de réparation qui, comme je le disais, ne pas se réduire à un événement de notre histoire. C'est tout un chemin de reconstruction qui peut passer par la psychothérapie, par l'hypnose, par le MDR. Il y a des tas de techniques.
Il y a tellement d'histoires, tellement de solutions pour se réparer,
bien sûr.
C'est du cas par cas.
Voilà. Et évidemment, quand on a affaire à la justice, veillez à le faire quand on se sent apte à affronter la justice, parce qu'il n'est pas question de se retrouver à nouveau victime, cette fois-ci de la justice qui, pour vous protéger, vous expose que trop.
Alors, Philippine dit qu'elle a donc des difficultés, évidemment. Pour elle, c'est inconcevable d'avoir des rapports sexuels. C'est un blocage, probablement dû effectivement à ce traumatisme. Mais ce qui est peut-être un peu plus étonnant, c'est qu'elle repousse même l'idée d'avoir juste une relation amoureuse, de tomber amoureuse, donc d'avoir un conjoint, tout simplement, enfin, au-delà du sexe. Hein, elle se refuse même à l'amour. C'est fort, quand même.
Oui, mais c'est un petit peu ce que l'on retrouve aussi dans un autre cadre qui n'est pour le coup pas traumatisant, d'une femme qui n'a pas de désir et qui n'accepte pas que son mari touche son épaule ou la prenne dans ses bras, parce qu'elle se dit que s'il touche mon épaule, il me prend dans ses bras, ses mains vont descendre et ça va devenir sexuel. Donc en fait, c'est une façon de mettre le holà très en amont de la situation.
Oui, la barrière est très tôt, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de se protéger, parce que justement, elle a le sentiment, souvent par exemple, j'ai une jeune femme qui me disait un jour, mais vous ne comprenez pas, Catherine, j'ai été excitée, alors qu'elle ne le voulait pas, c'est-à-dire qu'elle a senti son sexe se lubrifier. Donc en fait, pour ne pas être excitée, il faut vraiment prendre les devants très 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 en amont pour ne pas risquer de se faire trahir par son propre corps. Et c'est souvent ce que craignent les victimes de tels abus.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On revient